RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. Et oui, nous sommes 8 milliards, mais on ne s'est jamais senti aussi seul. D'ailleurs, de plus en plus de personnes essayent de retrouver leurs traces, des traces de leur famille. C'est ce qu'on appelle, et je vous apprends rien, la généalogie. Vous allez entendre dans cette émission jusqu'à 11h que la généalogie rencontre toujours un vrai succès. C'est toujours une passion chez les personnes âgées, mais pas uniquement. Vous allez entendre que les jeunes s'y mettent à cette généalogie. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Venez nous parler de la généalogie. Est-ce que c'est une passion pour vous? Est-ce que vous aimez comme ça aller farfouiller les archives pour retrouver des traces de votre famille, pour connaître vos cousins issus de Germain parfois? Est-ce que vous avez déjà fait votre arbre généalogique? Et qu'est-ce que ça vous apporte surtout, la généalogie dans votre vie? Parlez-nous aussi de vos jeunes, de vos enfants, petits-enfants. Est-ce qu'ils sont passionnés par la généalogie? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et on continuera d'agir, vous le savez, en toute fin d'émission à 10h55 avec Jacques de Chauvelin de la Sauvegarde de l'art français qui nous emmènera en Normandie pour une visite dans le Calvados, dans la commune de Moult-Chige-Beauville, à un croisement de route à la sortie du village. On peut voir un édifice fraîchement restauré. C'est une église, il nous en parlera à 10h55. Pour nous accompagner dans cette émission, on a le plaisir d'accueillir trois invités. Bonjour Chantal Jancel. Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes la présidente d'une association qui s'appelle EGDA, Études Généalogiques Drôme Association. Voilà, pour être un petit peu plus précis. Vous êtes donc dans la Drôme et avec nous par téléphone. La généalogie, Chantal Jancel, dans votre vie, comment vous l'avez rencontrée?
Ouh là là, il y a déjà fort longtemps, on va dire, puisque j'ai commencé très jeune. Donc, et puis une fois que on y met, je veux dire, le petit doigt, on se fait happer par les découvertes que l'on fait à chaque fois, et c'est une véritable petite enquête policière, on va dire, et puis on est très content quand on trouve quelque chose, et puis on repart sur une autre piste, et voilà quoi. Donc on est toujours à la recherche d'un acte que l'on n'a pas.
Ouais, c'est une vraie enquête, et ça je crois que c'est aussi un mot qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Bonjour Jean Legrand.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur RCF, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous êtes le vice-président de la Fédération française de généalogie. Alors je vais vous poser la même question à vous Jean, comment vous avez rencontré la généalogie? Parce que je crois que vous êtes prof d'histoire-géographie à la retraite, si je peux me permettre d'utiliser cette expression. Mais alors la généalogie du coup?
Alors, je suis effectivement historien, mais j'ai rencontré la généalogie, j'avais environ 12 ou 13 ans. C'est quelque chose qui fait beaucoup rire lorsque j'en parle, donc je vais en parler rapidement.
Mais on a envie de rire.
Voilà. C'était une page dans le journal de Mickey au début des années 60. Il y avait une page sur la généalogie qui expliquait un certain nombre de choses. Cette page, j'ai dû la lire 10 fois, 20 fois, 100 fois, j'en sais rien, mais enfin bon, ça m'est resté. Et comme j'aimais m'intéresser à l'histoire, il y a eu évidemment la période pendant laquelle je travaillais où j'avais pas beaucoup de temps, mais j'ai décidé un jour de me lancer, et c'est un petit peu ce que disait la personne précédente, quand on met le doigt dans l'affaire, eh bien ma foi, on y laisse le bras et tout le reste. C'est ce qui m'est arrivé, ça fait maintenant une quarantaine d'années.
Ouais, c'était pas forcément avant... Donc avant ça, quelque chose qui vous intéressait, vous étiez pas forcément curieux?
Ça m'intéressait, mais j'avais pas trop le temps. C'était surtout une question de temps, parce qu'une question d'intérêt, non, ça je l'ai toujours eu.
Qu'est-ce que c'est la généalogie, Jean Legrand? Comment on pourrait définir cette passion? Je ne sais pas si on peut dire que c'est un divertissement. En tout cas, c'est un métier puisqu'il existe vraiment des généalogistes.
Ah, il y a des généalogistes professionnels, oui, tout à fait. Moi, je le définirais plutôt comme une passion. Une passion qui peut être dévorante, d'ailleurs. Ça a été mon cas. Je passais mes vacances aux archives. J'ai fait beaucoup de voyages. Y compris aux États-Unis pour ma généalogie. J'ai même fait un congé sabbatique. J'ai pris un congé sabbatique il y a une vingtaine d'années pour faire avancer ma généalogie. Vous voyez jusqu'où ça peut aller.
Ça peut aller loin dans votre vie. Chantal Jancel, tout à l'heure, j'ai dit en introduction que la généalogie, c'était une passion qui existe depuis de très nombreuses années, notamment chez les personnes âgées, qui, en tout cas les retraités, qui ont peut-être un peu plus de temps, comme j'en viens de le dire, pour aller regarder de plus près les archives. Mais de plus en plus, les jeunes s'y mettent à la généalogie. Est-ce que c'est une mode? Mais je crois que vous aimez pas ce terme mode, Chantal.
Non, j'aime pas. Non, c'est pas une mode, c'est une passion. Donc, effectivement, la généalogie, je crois que c'est la troisième passion pour les Français. Donc, après le jardinage, le bricolage, voilà. Mais non, la généalogie, c'est vrai que ça intéresse beaucoup de personnes et beaucoup attendent la retraite, effectivement, avoir du temps devant soi pour le faire. Moi, j'ai pas attendu la retraite. J'ai commencé bien avant. Et entre le temps de pause, entre midi et deux, mon temps de pause de travail, j'allais aux archives pour chercher tous les jours. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est une passion qui vraiment dévore le temps, quoi.
Et qui s'adresse autant aux adultes qu'aux jeunes. Ça, c'est une certitude pour vous, une conviction.
Tout à fait. Les jeunes, alors c'est vrai que pour les jeunes, bon, mais ils ont les parents, les grands-parents qui peuvent déjà les renseigner. Donc, c'est peut-être un petit peu plus facile pour passer, parce que bon, il y a quand même des règles à savoir qu'on ne peut pas accéder aux archives de moins de 75 ans. Donc, voilà, il faut passer ce cap-là. Alors, ils ont peut-être les grands-parents pour les aider, pour les renseigner. Et puis après, on peut chercher maintenant facilement avec Internet et les archives en ligne qui sont accessibles à tous.
Ouais. En tout cas, si vous ne voyez pas forcément une mode, Chantal Jancel, on peut y voir une démocratisation, Jean Legrand, de la généalogie.
Oui, tout à fait. Depuis, en gros, les années 70, la généalogie s'est considérablement démocratisée. Auparavant, c'était plutôt... Enfin, ça semblait être réservé à des gens ayant des ascendances nobles. Maintenant, ça n'est plus le cas. Là, de mon côté, je suis remonté jusqu'au XVIe siècle dans pratiquement pas mal de branches. Je n'ai pas trouvé de nobles... Et je ne m'en porte pas plus mal.
Ouais. On peut remonter jusqu'à quand?
On peut remonter relativement facilement, on va dire, jusqu'à la fin du XVIIe, début du XVIIIe. Après, le XVIIe siècle devient un petit peu plus difficile. Et si on n'a pas, la possibilité justement de tomber sur un ancêtre noble, même de toute petite noblesse, ça peut devenir très difficile de remonter au-delà du XVIIe ou de la fin du XVIe siècle.
Parce qu'on n'a plus forcément les archives, c'est ça? Parce qu'on retrouve plus les traces, à part s'appeler Louis XIV et compagnie?
Non, pas jusque-là, mais ouais. Disons que les archives qui ont été conservées concernent plutôt les familles notables. Je ne dis pas les familles nobles, hein, je dis bien les familles notables, c'est-à-dire celles qui ont eu des fonctions, même des fonctions municipales dans des villes, hein, ou dans des petits villages. On arrive quand même à trouver des informations. Il y a également tout ce que les notaires ont laissé, puisque les notaires conservent leurs archives indéfiniment. Enfin, elles sont maintenant versées aux archives départementales, mais les notaires doivent les conserver. Et souvent, lorsque les actes officiels manquent, lorsque les actes des registres paroissiaux, par exemple, manquent, les contrats de notaire peuvent permettre de remonter une, deux générations, quelquefois davantage.
Et la généalogie, on en parle jusqu'à 11h avec nos invités, avec vos témoignages également. Venez nous en parler, hein. Est-ce que c'est une passion dans votre vie, pour vous? Est-ce que vous aimez comme ça aller chercher des traces de votre famille? Est-ce que vous avez déjà fait votre arbre généalogique? Qu'est-ce que ça vous apporte d'ailleurs dans votre vie? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Dans un instant, nous rejoindra notre troisième invitée. Elle est en route. Hein. Elle s'est juste trompée de sens. Evelyne Durès, c'est la présidente de l'association Les Jeunes et la Généalogie. Jean Legrand, comment vous avez rejoint la Fédération Française de Généalogie?
C'est par le fait que j'avais déjà pris des responsabilités dans une association qui est le Centre d'entraide généalogique de Franche-Comté. J'étais déjà vice-président. Et le CEGFC fait partie de la fédération depuis très longtemps. Et il faut un représentant de chaque association, enfin de chaque région. À la fédération, j'ai été nommé ce représentant en 2016. C'est comme ça que j'y suis arrivé.
Et une fédération, alors comme son nom l'indique, ça regroupe de nombreuses associations locales de généalogie, peut-être comme celle qu'on vous présente aussi ce matin, Jean.
On regroupe un peu plus de 160 associations, ce qui représente environ 40 000 membres d'associations. La fédération est une fédération d'associations, j'insiste là-dessus. Ça recouvre tout le territoire français. On a des associations qui sont des associations à assises départementales, par exemple, l'autre personne.
Chantal Jancel.
De la Drôme. Voilà. Chantal, voilà, merci. Pardon. Et puis, il y a des associations thématiques où on a une association, par exemple, de cheminots, il y en a des associations de la RATP. J'avais moi-même, lorsque je travaillais, créé une petite association dans ma société pour faire de la généalogie. Une toute petite association, on était une dizaine, hein. C'est tout. Mais tout ça, ça peut se regrouper à la fédération.
Chantal Jancel, qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre association du côté de la Drôme? Vous êtes là pour toutes les personnes qui ne savent pas par où commencer, peut-être,
pour se mettre à la généalogie. Oui, on est là pour être le soutien, effectivement, et donner des renseignements pour bien démarrer, quoi, et chercher les...
Chantal Jancel.
Et voilà. Oui. Et nous, depuis 1985, on a fait le relevé systématique de toutes les communes de la Drôme, donc 388 communes, où on a relevé les actes paroissiaux des origines des registres jusqu'à 1792 dans un premier temps. Et donc là, on met tout ça à disposition parce que on s'était très vite rendu compte que ces actes paroissiaux étaient difficiles à lire et pas accessibles à tout le monde. Donc nous, on les a mis en clair pour tous.
Où est-ce qu'on peut les trouver, justement, toutes ces archives?
Alors, toutes ces archives, on peut les trouver, notre travail est déposé aux archives départementales à Valence, donc où tous nos registres sont imprimés et à disposition de nos adhérents. Nous avons 1200 volumes, qui est le travail de notre relevé depuis plus de 40 ans. Voilà.
Ouais, ça fait quand même de nombreuses informations à aller chercher. Jean Legrand, ça peut prendre du temps comme ça de retrouver les traces de sa famille. Est-ce que ça demande un travail de fond, d'enquête, comme Chantal a dit tout à l'heure d'ailleurs?
Ah, tout à fait. Et quand elle a comparé la généalogie à une enquête policière, je ne peux qu'approuver. Ouais. C'est, comme elle le disait tout à fait justement, vous trouvez un renseignement, vous trouvez un acte, la première chose que vous faites, c'est déjà de voir ce qu'il y a dedans et de vous apercevoir que il y a des renseignements que vous devez compléter, et donc vous allez rechercher un autre acte. Vous allez aller comme ça constamment du connu vers l'inconnu. Et c'est ce qui fait en grande partie l'intérêt de cette recherche, hein, et le fait que ça prend aussi du temps, oui.
Alors, Jean Legrand, vous venez de voir arriver juste à côté de vous notre troisième invité qu'on est très heureux d'accueillir dans cette émission. C'est vous, Evelyne Duret, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur RCF, merci d'avoir couru jusqu'au studio. On est heureux de vous entendre, hein. Evelyne, vous êtes la présidente d'une association qui s'appelle Les Jeunes et la Généalogie. Alors là, ça nous intéresse, puisque depuis le début de cette émission, on dit que la généalogie s'est démocratisée, notamment chez un public un peu plus jeune. Racontez-nous, Evelyne, comment vous, dans votre vie, vous avez rencontré la généalogie? Comment la généalogie est venue jusqu'à vous?
Alors la généalogie, effectivement, elle est venue à moi tout simplement suite à un événement familial qui était difficile pour moi. C'était le décès de mon père, et c'est là que je me suis intéressée à mes racines plus avant. J'en avais déjà entendu parler auparavant, mais ça m'avait intéressée, je dirais juste intéressée, sans plus. Or, après cet événement-là, j'avais vraiment beaucoup envie de rechercher mes racines. Et j'étais professeur d'histoire-géographie en même temps. Et je me suis rendu compte du potentiel éducatif, pédagogique de la généalogie. Et c'est ce qui m'a donné vraiment une impulsion décisive pour essayer de transmettre la pratique de la généalogie auprès du jeune public, aussi bien les enfants que les adolescents.
Jean Legrand, la perte d'un proche, ce sont des témoignages qu'on entend souvent. Ça peut être comme ça un petit déclic pour aller rechercher des traces de sa famille.
Oui. J'ai quelques exemples en tête de personnes qui ont commencé la généalogie après la perte d'un père ou du père ou de la mère. J'ai quelques exemples comme ça. Bon, ça n'a pas été mon cas.
Oui.
Comme je vous disais tout à l'heure, mais. C'est vrai que c'est relativement fréquent.
Monique nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour à vous, Monique.
Oui, bonjour. Moi, je voulais dire que j'ai fait mon arbre généalogique en deux temps. Premièrement, j'ai commencé pour des raisons thérapeutiques, pour essayer de comprendre les causes à effet. Et puis ensuite, ayant beaucoup de temps à la retraite, j'ai découvert dans mon grenier, en cherchant autre chose, des pièces à conviction qui m'ont permis de réparer des trous de mythe ou de faire un puzzle, vous savez, comme un puzzle qui était éparpillé. Et ça m'a donné un éclairage sur ma vie qui m'a manqué au niveau de la santé et que j'ai mis par écrit sur des feuilles de classeur. Maintenant, j'en suis au deuxième gros classeur. Et avec des pièces à conviction que j'ai découvertes, c'est-à-dire comme mes ancêtres avaient gardé des pièces précieuses, je les ai agrandies, photocopiées, enfin pour ma descendance, en me disant que peut-être que eux, si ça leur rapporte autant que moi... Mais moi, c'est une véritable résurrection au niveau santé, de connaître mes racines qui m'ont tant manqué.
Merci beaucoup, Monique, pour votre appel dans Je pense, donc j'agis. Evelyne Duret, c'est intéressant, hein, ce que nous a raconté Monique. Elle parle de pièces à conviction, de puzzle. On est vraiment dans une enquête, j'ai l'impression d'être dans une série, moi. C'est ça la généalogie pour vous, Evelyne?
Oui, je salue vraiment le témoignage de Monique parce qu'il est vraiment fantastique. Et je reconnais dans les paroles de Monique ce que des jeunes peuvent dire aussi. Justement, la généalogie, ça va être un pas qui peut être décisif justement pour connaître d'où l'on vient. Et c'est une question qui traverse toutes les générations. Donc vraiment, je reconnais, je salue vraiment ce témoignage qui est magnifique. physique. Mmh. Et je crois beaucoup que la généalogie peut apporter vraiment des réponses pour se situer dans sa famille, se situer soi-même à l'intérieur de toute la parentèle. Et ça, je crois que c'est très important pour tout un chacun.
Chantal Jancel, Monique nous parlait d'effets thérapeutiques, un peu d'une thérapie à travers la généalogie.
Oui, mais écoutez, effectivement, chacun peut trouver des renseignements qui peuvent les aider. Mais personnellement, moi, c'était surtout connaître la vie de mes ancêtres et pourquoi j'étais autant attachée à mon village. Et bien, je l'ai compris au travers de toutes ces recherches, puisque avec mes petits-enfants, nous avons 17 générations implantées dans mon village, donc natal. Donc j'y suis toujours et j'habite une maison de famille. Voilà, on est vraiment imprégné de tout ce passé. De ceux qui sont passés avant nous, quoi.
Jean Legrand, ça vous parle à vous aussi?
Oui, et également, ce qui m'a paru le plus intéressant dans ce que j'ai commencé la généalogie, c'est évidemment de construire l'arbre généalogique, de connaître le nom de mes ancêtres, etc. Mais c'est aussi de savoir ce qu'ils ont fait, où ils ont vécu. Et j'ai eu quelques surprises, d'ailleurs. J'ai découvert des choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Non, je pense que effectivement, ça peut avoir un effet de reconnexion avec le passé qui manque un petit peu peut-être de nos jours.
Vous, Evelyne Durès, quand vous avez perdu votre papa, que vous êtes comme ça parti à la recherche peut-être de vos origines, de vos traces, ça a eu un effet, alors peut-être pas thérapeutique, c'est peut-être un terme qui est très fort, mais en tout cas une forme de bien-être, ou comme si vous aviez vraiment ce besoin d'aller plus loin.
Alors moi, je recherchais des contemporains parce que justement, je me suis sentie comme si j'étais seule au monde, ce que je n'étais pas du tout, mais je ressentais comme ça. Et donc moi, j'ai éprouvé le besoin de rechercher les cousins, les petits-cousins de mes parents. Ils en avaient énormément et je me suis plus attachée à retrouver des contemporains qu'à remonter loin dans le temps. J'avais envie de liens. Et je voudrais dire que la généalogie, elle apporte des choses différentes à chacun. Qu'on est chacun différent et il me semble que, enfin moi je milite beaucoup pour une généalogie la plus ouverte possible. Si quelqu'un veut faire des recherches uniquement du côté de son papa ou de sa maman parce que pour le moment l'autre côté est trop difficile ou inconnu ou je ne sais pas, eh ben il n'y a aucun souci. En fait, chacun mène les recherches telles qu'il les souhaite et telles que ça lui apporte quelque chose. Et c'est pour ça qu'avec les enfants, on essaye de faire la généalogie la plus large possible, la plus ouverte possible.
On a reçu un message d'Anne dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ». Anne qui nous dit « Mon mari de 50 ans fait des recherches généalogiques depuis 25 ans. Je dirais que le fait d'avoir perdu ses 4 grands-parents en 6 ans a été un déclencheur. J'associe cela à un puzzle qu'il aime beaucoup car il fait beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience. C'est une passion, il passe beaucoup de temps et ça a un effet calmant comme le jardinage. Et je pense que ça rejoint totalement ce qu'on disait à la fois avec Monique et avec vos réponses. Bonjour Michel. Michel, je vais vous laisser couper votre radio derrière, comme ça on vous entendra bien.
C'est parfait.
Bienvenue.
Voilà, bon bah c'est un témoignage. J'étais toujours intéressée par la généalogie depuis une bonne vingtaine d'années, mais je me suis butée à des difficultés particulières et donc je me suis vite découragée et j'ai repris la chose en main assez récemment et j'ai été surtout aiguillonnée par un cousin qu'on m'a donné son téléphone que je ne connaissais pas, qui m'a entièrement mis au point ma généalogie à partir de 1817. Ça a été d'une très très grande précision, donc je l'ai mis au point, j'en ai fait un tableau, il est patafixé sur mon mur, c'est très intéressant. Et d'autre part, ce cousin a fait quelque chose d'exceptionnel dont je ne m'attendais pas du tout, c'est qu'il a fait un récit complet de tous nos descendants. Parce qu'on a des descendants communs avec cet homme, et c'était du côté de ma maman. donc en Auvergne. Alors je m'aperçois que ce sont des gens très simples, de la campagne, des gens très travailleurs, et rien de particulier à signaler, mais c'est très touchant et très fondateur. C'est rassurant d'avoir les fondations de ces personnes qui nous ont permis d'être en vie.
Vous venez de dire, Michel, qu'il y a un moment vous étiez découragé. Pourquoi ?
Oui, parce que ça, je me suis butée, mais il y a des années de ça, à mon petit village d'origine, par exemple, je pourrais vous dire Faverolles, où tous les registres ont été volés à la suite d'un incendie, donc reportés sur Aurillac. Et là, j'ai calé, j'ai dit, bon, je laisse tomber, c'est trop compliqué. J'étais pas suffisamment passionnée, mais j'ai énormément été très gratifiée par ce cousin qui habite Nîmes. Donc on a toujours parlé uniquement par Internet, et on ne s'est pas parlé par téléphone, Internet, et ça a été un travail absolument extraordinaire. Donc quelqu'un de très motivé, et comme, excusez-moi le terme, je ne sais pas si ça convient, mais c'était un moment comme une enquête policière.
Ah ben, non, mais on le dit depuis le début de cette émission, donc vous inquiétez pas Michel, on peut le dire sans aucun problème. Merci beaucoup pour votre témoignage dans Je pense donc j'agis. Chantal Jancel, Michel qui nous disait qu'elle y a un moment où elle était un petit peu découragée dans son enquête, justement pour se lancer dans la généalogie. C'est du faut être à temps plein ou presque pour vraiment se pencher à fond sur la généalogie, d'après vous, Chantal?
Non, il faut pas du temps plein, il faut avoir du temps de libre, voilà. Mais c'est vrai que on peut passer beaucoup de temps, effectivement, à faire des recherches. Et puis, je veux dire que tous les jours, on apprend quelque chose, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant dans la recherche. Parce que lorsque l'on bute sur un acte, on cherche par quels moyens détournés, on va dire, on peut rechercher un acte. Dernièrement, là, pour un ami, j'ai fait une recherche où il avait juste une année de décès et un lieu, mais il voulait voir donc le décès de sa grand-mère et justement la période avant 1945 et entre, je veux dire, les années 20 et 1945, où là, sur les actes, nous avons les mentions marginales qui apparaissent, mais on n'a pas d'infos, quoi. C'est pas accessible. Et tout ça, ça a débouché sur une recherche, je veux dire, là j'y ai passé 2 semaines à interroger les différentes mairies et tout, parce que voilà, les actes n'étaient pas en ligne. Et en définitive, il avait juste une info comme quoi c'était un hôpital Sainte-Marie. Donc nous, l'hôpital Sainte-Marie, c'est à Privas.
Oui, en Ardèche.
Dans l'Ardèche, mais par des biais détournés, c'est-à-dire de l'enregistrement des décès, j'ai fini par lui trouver donc son décès. Et en définitive, c'était dans la mémoire familiale, il y avait juste une chose de bonne. C'était l'hôpital Sainte-Marie, mais c'était pas Privas, parce que nous, dans la Drôme, on pense tout de suite Privas, mais c'était l'hôpital Sainte-Marie, mais à Clermont-Ferrand.
Ah oui, c'est pas pareil, hein. C'est pas le...
Et voilà. Ouais. Donc, et c'est ça qui fait, je veux dire, que même en recherchant pour les autres, on apprend toujours quelque chose, quoi. Voilà.
Ouais, c'est ça aussi la richesse, je pense, Évelyne Duret, de la généalogie, c'est de se replonger dans, bien sûr, dans les origines, dans sa famille, mais aussi vers des anciens métiers qui actuellement n'existent plus, des objets aussi, puisque par la force des choses, quand on va retrouver des archives, on va pas juste retrouver un nom et une date de naissance, on retrouve aussi des métiers et puis des documents finalement.
Ah oui, tout à fait. La recherche généalogique, ça se limite pas du tout à une série de noms et de prénoms. Ça serait vraiment très réducteur et on perdrait beaucoup de tout ce que l'on peut savoir sur sa famille. Et justement, avec les jeunes générations, les documents, c'est parfait. Les documents en ligne, bah, c'est vrai que c'est très utile. Comme l'a dit l'auditrice tout à l'heure, il y a quand même une sorte de trou dans les documents en ligne entre les années 1920 et 1950. 50, on va dire. Donc là, voilà, il peut y avoir un petit souci pour retrouver les documents. Et autre chose vraiment de très, très chouette avec les enfants, ce sont les objets. Parce que les objets, ils témoignent de la vie de nos ancêtres. Oui. Nos ancêtres étant compris comme nos ascendants. Par exemple, des ascendants du début du 20e siècle, ils se servaient d'objets dont on n'a plus idée maintenant de ce que ça peut être. Du genre le téléphone, quand on voit l'évolution technologique, ou le moulin à café. Donc, il y a vraiment en un siècle des pratiques dans la vie courante qui ont été très très différentes. Et là, les enfants découvrent vraiment tout un pan de la vie de leurs ancêtres par le truchement des objets. Donc, je trouve que c'est, on n'y pense pas toujours en recherche généalogique parce qu'on est focalisé sur les documents écrits, mais il y a d'autres sources qui sont complémentaires, comme les photos que les enfants adorent regarder et qui elles aussi disent beaucoup de choses de l'époque, indépendamment de l'identité même des personnes. Et puis les objets, c'est vraiment quelque chose de très très chouette et auquel et à laquelle les familles aussi adhèrent beaucoup. Je reviens du coup sur un petit mot qui a été beaucoup dit, c'est le mot enquête policière.
Oui, tout à fait.
Alors oui, enquête policière, j'irai pas jusque là parce que il peut y avoir dans la réaction de certains parents, mais pourquoi est-ce que l'on va fouiller, farfouiller, tant que ça, qu'est-ce que l'on cherche réellement? Donc je préférerais aller sur le chemin des racines, aller retrouver ses origines, éventuellement enquêter, mais policière, je préférerais ne pas trop employer ce terme-là. Et justement, les objets, c'est un bon truchement. Les familles peuvent confier des objets ou des photos des objets, et c'est très très parlant, sans aller jusqu'à dire policier. Voilà.
Je pense que c'était une métaphore, mais Evelyne,
oui, bien sûr, mais
on est d'accord, je pense, tous les quatre sur ce point-là. Allez, un peu de musique sur RCF, on va écouter Yannick Noah tout de suite, qui lui aussi est parti chercher les traces de sa famille. On l'écoute tout de suite, c'est un extrait de son dernier album.
Pas le temps de ralentir, pas le temps de réfléchir, sûrement pas très loin d'ici, c'est sûr, pas très loin d'ici. Il y a une route pour commencer et un bateau qui m'attendait. Pas si loin d'ici, c'est sûr, pas très loin d'ici. Mais je laisse une trace sur mon chemin pour retrouver mes amis demain. Oui, je laisse une trace. Sert à rien.
Je vais faire un tour pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je vais faire un tour là-bas.
Pas le temps de m'arrêter et pas le temps de calculer. C'est vrai, pas très loin d'ici, c'est sûr. Pas très loin d'ici, il y a d'autres vies à traverser et d'autres vies à partager. Sûrement, pas si loin d'ici, oh non, pas très loin d'ici. Mais je laisse une trace sur mon chemin pour retrouver mes amis demain. Oui, je laisse une trace et je reviens parce qu'un aller sans retour ne sert à rien.
Je vais faire un tour pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je vais faire un tour là-bas
pour te raconter.
Je vais faire un tour pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je vais faire un tour là-bas.
À rien.
Je vais faire un tour pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je vais faire un tour là-bas.
Pas le temps.
Je vais faire un tour pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je vais faire un tour là-bas.
Pas le temps.
Je vais faire un tour pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je vais faire un tour là-bas pour te raconter.
Trace, c'était Yannick Noah sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Avec nos trois invités pour nous parler de la généalogie, Jean Legrand, vous êtes le vice-président de la Fédération française de généalogie, Evelyne Duret, présidente de l'association Les Jeunes et la Généalogie, et puis Chantal Jancel, présidente d'une association qui s'appelle EGDA, Études Généalogiques, Drôme Association. Nicole nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour à vous Nicole.
Oui, bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Et alors moi j'entends cette émission et je n'ai pas préparé mon interlocution, enfin oui. Et j'ai découvert l'an dernier, moi j'ai 79 ans, et l'an dernier, une arrière-cousine du côté maternel a fait une enquête très poussée et extraordinaire qui remonte jusqu'au donc 17e siècle. Et je me suis procuré l'exemplaire et à ma grande surprise, je découvre dans ce document que par mon grand-père donc maternel, donc la lignée directe évidemment, issu lui-même d'une famille du Berry de Crézancy, un des ancêtres donc un de ses ancêtres était donc on a pour cousin donc Bossuet.
Oui. Voilà. Sympa.
Bossuet. Bon, Bossuet. Je dis ça à titre d'anecdote et c'est ma petite histoire, on va dire la petite histoire. Et un descendant de Bossuet, s'est marié avec une Claude de Bretagne. Voilà, donc, dans le document, il y a donc un blason. Et alors, ça m'amuse beaucoup. J'ai découvert évidemment plein de choses, parce que c'est très fouillé comme enquête. Là, je peux pas en dire davantage parce que, bien sûr, je vais pas prendre l'antenne. Mais vraiment, c'est très étrange parce que moi, il n'y a pas d'aristocrate dans la famille. Et voilà, je me découvre peut-être avec un milliardième d'ADN avec Anne de Bretagne.
Alors, vous parlez de Bossuet. Quel Bossuet? Parce qu'il y en a beaucoup.
Bossuet, Jacques Bénigne.
Ah, l'évêque alors.
Voilà, c'est ça.
Oui. Eh ben, écoutez, merci beaucoup.
Voilà.
Oui.
C'était juste pour. Oui, c'est très étrange.
On retrouve des petites surprises comme ça. Merci Nicole d'avoir été avec nous dans Je pense donc j'agis. Jean Legrand, on peut trouver des petites surprises comme ça.
Ah oui, ça tout à fait. Ouais. Oui, ça je confirme.
Ah oui.
Oui. J'ai eu des surprises moi-même. Je suis cousin avec la famille Peugeot. Ils ne le savent pas, mais je suis cousin avec la famille Peugeot. Ouais. J'ai jamais eu Peugeot d'ailleurs parmi mes voitures, mais enfin bon, ça c'est une autre affaire.
Mais s'ils nous écoutent,
s'ils m'écoutent, ils m'en proposeront une. Voilà. J'ai découvert des choses, en particulier des faits divers auxquels je m'attendais absolument pas. Dans la presse ancienne, donc tout à l'heure quand je disais ce qui est intéressant, c'est de non seulement d'avoir les noms des ancêtres, de savoir quand ils ont vécu et tout ça, mais de savoir aussi ce qu'ils ont fait, en bien et en moins bien. On tombe sur des surprises assez gratinées par moment d'ailleurs.
Vous avez un exemple?
Oui, c'est pas un exemple très glorieux. C'est au 19e siècle, en Seine-et-Marne. Je dirais que c'est un grand-oncle, parce que c'est pas un de mes ascendants directs, mais c'était le frère d'un de mes ascendants directs, qui a assassiné une pauvre fille pour se venger du père de la fille.
Ah, d'accord.
Il a fini, je vous rassure, il a fini au bagne en Nouvelle-Calédonie.
Oui, vous voyez qu'on n'est pas loin du l'enquête policière quand même, Evelyne Duret.
Oui.
Evelyne, vous avez retrouvé des surprises comme ça ou pas forcément?
Des surprises, c'est peut-être pas exactement le mot, mais je vais dire juste une petite chose de ma généalogie, puisque moi je recherchais des contemporains. J'ai donc été amenée à rechercher donc mes collatéraux, et je savais que mes grands-parents avaient eu un bébé qui était décédé à la naissance, et j'imaginais que c'était en Italie, puisqu'ils sont originaires d'Italie, et qu'ils étaient venus en France ensuite. Et au commencement de mes recherches, je me suis rendu compte qu'en réalité, ce décès, ce drame avait eu lieu en France, dans la petite ville où ils s'étaient installés à leur arrivée en France. Ça se passait à Courchelette, à côté de Douai.
Voilà, Comme quoi aussi, on retrouve des informations comme ça. Chantal Jancel, ça peut perturber, comme ça, d'aller, pour reprendre cette expression, farfouiller dans ses archives de sa famille.
Non, je pense pas, parce qu'il faut quand même relativiser. Il y a des événements qui se sont passés il y a fort longtemps, donc effectivement, la recherche de chacun, chacun espère trouver une branche noble, mais bon, ça c'est pas donné à tous, malheureusement. Moi c'est pareil, je n'ai absolument pas une branche noble tout en ayant remonté à 1580, quoi. Donc, et là justement, j'avais rencontré une personne qui lui m'avait montré sa généalogie faite que de blasons, que des particules. Un livre à baver devant, quoi. Ouais. Et il ne comprenait pas que moi, avec des simples paysans, je puisse remonter aussi haut que lui. Donc, ah, ça, oui, c'est quelque chose qui, pour lui, était
assez cocasse. Jean-Marie est avec nous. Bonjour, Jean-Marie.
Bonjour, Melchior.
Et bienvenue.
Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis tombé dans la généalogie à 64 ans, à peu près, lors du décès de mon père, et j'ai trouvé dans ses archives une généalogie de la famille, mais de la famille proche. Voulant pas faire perdre toutes ces choses-là, je me suis intéressé à des logiciels informatiques. J'ai une amie qui m'a mis un peu en route, et puis après, j'ai vraiment développé mon arbre généalogique. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand on tombe dans la généalogie, c'est très vite une conduite addictive. C'est-à-dire qu'on est tellement pris par la recherche que l'on fait et de ses ancêtres dans les archives départementales, qu'à certains moments, on se retrouve à 2h du matin et on se dit « Tiens, c'est déjà... Moi, j'ai pas vu passer le temps. » Tout simplement parce que c'était ça. Ça permet aussi de retrouver des membres de sa famille. J'ai découvert que des homonymes ou d'autres personnes qui vivaient pas très loin de chez moi, en fait, on était cousins à 4 ou 5 générations. Ça veut dire qu'on oublie très vite les différentes branches qui composent une famille. Mmh. Et puis ça permet aussi de redécouvrir un peu l'histoire. Parce que quand on remonte dans le temps, on s'aperçoit que les modes de vie étaient différents et les habitudes n'étaient pas toujours très... notamment pour les agriculteurs qui avaient beaucoup d'enfants, qui les plaçaient chez des personnes ou chez des notaires ou chez des gens de la ville pour devenir domestiques et servantes. Et là, il y avait plein de petits problèmes qui parfois étaient assez graves. Donc, mais ça... Cette découverte-là, avec toute la communauté des généalogistes qu'on peut contacter par Internet, eh bien, ça permet parfois de retrouver des cousins vraiment très éloignés.
Merci Jean-Marie pour votre témoignage dont Je pense donc j'agis. Jean Legrand, des nuits jusqu'à 2h, 3h du matin à retrouver ses archives. J'ai l'impression, oui, que vous avez déjà connu ça.
Oui, j'ai connu ça, oui. Ouais.
C'est addictif, c'est une addiction, ah oui, pour vous, la généalogie. Ouais. Une bonne addiction, ouais, du coup. Hein.
C'est une bonne addiction, ouais, ouais. Ça fait de mal à personne. Ouais. Mais c'est, oui, j'ai passé des nuits. Comme je vous disais, j'ai même pris un jour un congé sabbatique pour faire avancer ma généalogie, alors que je travaillais encore. Donc, faut vraiment être motivé pour ça quand même.
Qu'est-ce que vous en faites de ce que vous découvrez? Est-ce que vous faites un arbre généalogique? Est-ce que vous répertoriez les noms de votre famille, par exemple? Comment ça fonctionne, en fait, une fois qu'on a trouvé des informations, Evelyne Duret?
Alors, on essaye de regrouper toutes les informations dans un arbre généalogique qui va être une sorte de synthèse. Et puis, à côté, on a un classeur, enfin, ou un support quel que soit le support en question, mais où on va justement engranger tous les documents et on va les garder précieusement. On prendra aussi soin d'en faire une copie parce que on ne sait pas ce qui peut arriver d'un document original. Donc on a à la fois l'arbre généalogique pour faire une sorte de synthèse, mais il est évident que pour que l'arbre généalogique soit lisible, on ne peut pas mettre tous les renseignements sur toutes les personnes, sinon c'est une forêt trop fouillie. Donc on a à côté donc des supports sur lesquels on va mettre nos documents et essayer de les conserver du mieux possible.
Voilà et une bonne idée.
C'est ce que l'on fait aussi avec les enfants. Ils comprennent très bien le côté justement synthétique de l'arbre. Et c'est ça qui est génial avec un arbre généalogique, c'est que l'on peut aussi employer tous les termes qui vont avec l'arbre végétal. Et on peut lui rajouter des branches quand il se rajoute des branches dans la famille. On peut rajouter des branches dans l'arbre généalogique. Donc on peut vraiment l'adapter à toutes les formes de famille. Et ça, c'est très précieux avec les enfants, parce que les formes de famille évoluent tout de même. Et donc, l'arbre généalogique doit tenir compte des évolutions de la société, évolutions des familles. Mais par exemple, il faut prévoir de, éventuellement, pouvoir ajouter à côté du papa, peut-être un beau-père, ou à côté de la maman, une éventuelle belle-mère. En même temps, il n'est pas question non plus de prévoir une case « ma belle-mère », parce que peut-être j'en ai pas, ou peut-être j'en ai deux.
Ah oui, donc c'est que de l'adaptation.
Voilà.
Quoi.
Ouais. Donc voilà, la généalogie, c'est la généalogie, c'est la recherche qui s'adapte à la famille, et pas le contraire. Donc moi, je préconise souvent des cases grandes, vraiment grandes, sur un arbre généalogique. Comme ça, on peut vraiment adapté à chaque famille. On peut ajouter des choses dans la case selon les besoins.
Marie-Josée est avec nous. Bonjour Marie-Josée.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour.
Et à toutes. c'est pas tout à fait la même chose, mais ce sont les journaux de famille.
Oui.
Et donc, j'ai devant moi des journaux qui ont été tapés à la machine par ma mère. Et en regardant les journaux anciens, donc je vois février 1859, je suis née le 31 août 1791 à Fresnay-au-Val, village de Picardie, etc. Mon père et ma mère nés tous deux en 1766, donc c'était marié en 1790. Et puis beaucoup de choses de ce temps-là. Mais je vois que là, j'ai vu aussi que l'école normale, qui est une très belle école maintenant, ils avaient été très, leurs enfants avaient été, c'était pas bien, c'était pas une belle école. Je ne sais plus quelle école était mieux. Il y a une autre chose, c'est ça commence donc on les prend toujours par les premières lignes. 7 juillet 1837, j'ai toujours eu une excellente mémoire, mais comme c'est de toutes nos facultés celle qui s'affaiblit le plus tôt, je veux profiter que la mienne, malgré mes 40 ans, possède encore toute sa fraîcheur pour retracer les principaux événements de ma vie, etc.
C'est joliment écrit. Merci Marie-Josée pour ces belles anecdotes, ces souvenirs qu'on écoute d'ailleurs depuis le début de cette émission. Jean Legrand, ça peut être une idée, ça aussi, de ce qu'on trouve de nos recherches généalogiques, d'en faire un journal comme ça pour la famille.
Ouais, non seulement c'est une idée, mais c'est indispensable de laisser une trace. Quand on fait des recherches comme ça pendant des années et qu'on obtient évidemment des résultats auxquels quelquefois on ne s'attendait pas, il faut laisser une trace pour ceux qui viendront derrière nous. Je pense qu'il est indispensable non seulement de faire un arbre généalogique parce que c'est, comme le disait Evelyne Duret, c'est une bonne synthèse, mais de rédiger quelque chose, à la limite, au besoin, en se focalisant sur un ancêtre particulier qui sort un petit peu de l'ordinaire. Mais je pense qu'il faut laisser une trace écrite, oui.
Véronique nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Véronique.
Oui, bonjour, j'étais à ma radio.
Allez-y. On va y arriver, comme ça, on entendra bien distinctement votre voix. Véronique, c'est à vous.
Bonjour, merci beaucoup de votre émission. Voilà, moi je voulais dire que en fait j'avais travaillé la généalogie avec un psychiatre en faisant de la psychogénéalogie. Oui. Parce que on est héritier d'histoires. Des fois pas très drôle, mais je me rendais compte que il y avait beaucoup de suicides dans ma famille, que ma sœur s'était suicidée, enfin de comme ça de comprendre un peu ce qui s'était passé et puis pas forcément reproduire ce qui s'est passé justement.
Donc la psychogénéalogie, voilà une notion qu'on n'a pas encore évoquée dans cette émission. Merci beaucoup Véronique d'être venue dans Je pense donc j'agis. Evelyne Duret, vous connaissiez la psychogénéalogie?
Alors, à titre personnel, oui, j'ai lu des livres sur le sujet, ça m'a passionnée. Je pense que c'est une branche de la généalogie, si je peux dire, qui peut être très, très utile. Pour ma part, avec les enfants, on pratique pas la psychogénéalogie, mais on a comme ligne de conduite de ne jamais aller à l'encontre de la famille, vraiment jamais, jamais, et de ne jamais juger ce que les enfants vont découvrir. Donc, je dirais qu'il y a une partie des principes que vraiment il faut appliquer de façon stricte.
Jean Legrand, il y a des règles comme ça? Comme vient de le dire Evelyne, à respecter sur la généalogie, notamment en ce qui concerne Internet, parce que j'ai l'impression qu'on peut tout retrouver sur Internet.
Oui, enfin, oui, on peut retrouver beaucoup de choses, c'est certain. Des règles à respecter, je crois qu'on en a déjà, on en a déjà évoqué pas mal, c'est ça. C'est respecter la famille déjà, effectivement. Respecter aussi quelquefois surtout lorsqu'on cherche parmi les gens relativement contemporains, respecter quelquefois des secrets de famille qu'il vaut mieux ne pas ébruiter trop tôt. Parce que ça peut arriver, peut arriver que pour une raison X ou Y, une partie de la famille ne souhaite pas qu'on mette au jour, certains aspects de leur vie passée ou autre. Ce qui me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure au sujet des grands-parents, j'ai eu le cas moi-même, ma grand-mère maternelle ne souhaitait pas trop parler de sa vie. C'est tout simplement parce qu'en fait elle avait divorcé, que ça se faisait pas à l'époque. Ah. Et ça je l'ai découvert longtemps après.
Alors Jean, Evelyne et Chantal, depuis le début de cette émission, on parle de la sauvegarde par exemple de sa famille à travers la généalogie. Eh bien tout de suite on va plutôt parler de la sauvegarde du patrimoine avec notre chroniqueur qui vient de nous rejoindre. Et c'est ce qu'on fait tous les mercredis dans Je pense donc j'agis. Et nous retrouvons Jacques de Chauvelin de la sauvegarde de l'art français. Bonjour Jacques.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Vous nous emmenez dans le Nord, c'est le moins que l'on puisse dire.
Alors oui, dans le Nord, il y a deux semaines, je vous ai emmené dans la Manche et aujourd'hui on reste en Normandie puisque je vous emmène en visite dans le Calvados et plus précisément dans la petite commune de Moult-Chichebeauville. À un croisement de route à la sortie du village, on peut voir un édifice fraîchement restauré, l'église Notre-Dame de Bénoville.
Et cette église, c'est une vraie petite merveille, Jacques, d'art roman, dont la fondation remonte au XIe siècle, quand même.
Oui, elle a gardé en fait le nom d'église, mais quand on la voit, elle ressemble plutôt à une grosse chapelle de campagne, avec son clocher pignon en forme de campanile en bout de sa nef. En comparaison, finalement, des églises monumentales des anciens villages de Moult et de Chichebeauville. C'est qu'en fait, l'église Notre-Dame est le vestige d'un moustier, c'est-à-dire une ferme qui a été exploitée par une abbaye, en l'occurrence celle de Troarn, où les moines se sont établis à la fin du XIe siècle. Et donc notre grosse chapelle, elle a un chœur qui date de cette époque et qui abrite notamment des sublimes chapiteaux romans. À l'extérieur, on remarquera la corniche qui est vraiment remarquable avec son décor de modillons sculptés. On y voit figurer des têtes nues, encapuchonnées, des animaux, tout ça qui figure des scènes bibliques ou de l'imaginaire profane médiéval.
Et tout cela a pu être remis pleinement en valeur, Jacques, grâce à l'engagement des habitants, en particulier ceux membres de l'association de la sauvegarde de la chapelle.
Et comme souvent, c'est effectivement l'énergie d'un petit groupe de passionnés qui a permis de restaurer cet édifice. En fait, dès 2009, on a une commune et une association qui sont lancées dans un vaste projet pour que la chapelle, qui est donc millénaire, puisse être transmise aux générations futures. On a une association qui a réussi à lever près de 240 000 euros pour le chantier, en recourant à la générosité des donateurs, bien sûr, aux subventions publiques, mais aussi à l'aide de la Fondation du patrimoine et de la Fondation pour la sauvegarde de l'art français. Et donc, en plus de ce levée de fonds, elle s'est adjoint ce qu'on recommande, le conseil d'un architecte du patrimoine, pour permettre une restauration fine dans les règles de l'art et pour respecter les particularités de cet édifice.
Et on peut notamment saluer le travail conduit pour conserver un savoir-faire artisanal très local, celui de l'enduit à la bouteille. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, Jacques, sur cette technique ?
Alors oui, on en arrive au sujet de cette chronique sur les savoir-faire traditionnels. Il s'agit en fait d'une technique de réfection de l'enduit de façade selon une ancienne méthode qui est extrêmement simple. Elle consiste à utiliser une bouteille sur la chaux pour laisser des stries qui suivent parfaitement les rangs de pierre calcaire et les protègent ainsi donc de la pluie. Finalement, ce que je voulais montrer à travers ce chantier, c'est qu'il est vraiment exemplaire. On a une commune qui s'est mobilisée pour trouver des fonds pour sauver ce patrimoine exceptionnel, tout en tentant de conserver des savoir-faire anciens. Et donc la sauvegarde de l'art français a bien sûr soutenu ce projet depuis son lancement, mais elle lui a attribué, après un vote public, son prix Trévise, donc qui vient récompenser les restaurations exemplaires qui respectent les règles de l'art et les savoir-faire traditionnels. Ce sont donc 5000 euros supplémentaires qui ont été reversés à la commune, une commune bien méritante, hein, pour qu'elle poursuive ses efforts dans la préservation de cette chapelle vieille de 10 siècles.
Voilà comment conserver les savoir-faire traditionnels. Merci beaucoup Jacques de Chauvelin pour toutes ces informations et nous avoir emmenés comme ça dans le Nord. On peut aller retrouver plus d'informations sur toutes vos actions sur le site de la sauvegarde de l'art français. Chantal Jancel, est-ce qu'on peut faire un lien assez simple entre la famille et le patrimoine? Est-ce que, enfin, la généalogie et le patrimoine, c'est-à-dire rechercher comme ça ses origines, des traces de sa famille, on peut aussi trouver des bâtiments, des bâtisses, des maisons qui ont appartenu à la famille?
Effectivement, on peut rechercher à l'aide du cadastre, voir où ses ancêtres ont habité, quoi. Donc, on peut effectivement rechercher, oui.
Evelyne Durey, vous allez avoir le mot de la fin. Quel honneur pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent ce matin, qui ont des enfants ou petits-enfants et qui aimeraient leur transmettre cette flamme de la généalogie. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil ?
Alors, de se parler beaucoup, que les enfants posent des questions à leurs grands-parents, que les grands-parents acceptent d'y répondre. Ça ne veut pas non plus dire se dévoiler totalement si justement on a des choses qui sont gênantes. C'est dans le respect de tout le monde. Et donc, on peut tout à fait répondre à un enfant, écoute, là, pour le moment, j'ai pas encore trop envie de parler de ça parce que c'était douloureux dans un petit moment. Donc, d'encourager vraiment la curiosité des enfants parce que les enfants, à la base, ils ont envie de connaître leurs origines. Ils ont envie de savoir d'où ils viennent. C'est vraiment une phrase que l'on peut entendre, sachez, dans la bouche des enfants. Moi, madame, je veux savoir d'où je viens. Mmh. Et donc, le travail, si je peux dire, des parents, mais plus encore des grands-parents, à mon avis, et aussi des oncles, tantes, etc., ben c'est vraiment de répondre à la curiosité des enfants. N'hésitez pas à choisir un moment propice, un peu comme les vacances scolaires, des moments un peu tête à tête dans un lieu un peu calme, une promenade par exemple, et ça pourrait être un moment déclencheur. Et ensuite aussi de montrer des documents, pas trop non plus, un peu comme si on découvrait un tiroir ou une malle au trésor, et de dire, ben voilà, on a des choses qui datent un peu. Et voilà, de laisser les enfants poser les questions, de pas non plus trop aller de l'avant.
Voilà de bons conseils. Merci beaucoup Evelyne Durey. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Les Jeunes et la Généalogie, à retrouver sur le site jeunes et généalogie.fr. C'est dur à dire. Merci Jean Legrand d'avoir été avec nous, vice-président de la Fédération française de généalogie. Rendez-vous sur genefd.eu. Et puis Chantal Jancel, je vous oublie pas, hein, président de l'association EGDA dans la Drôme, à retrouver sur le site geneadrome.org. Merci à chacun d'entre vous pour votre participation. À demain, 9h-11h, avec Stéphanie Gallet.